Merci d'écouter RFI, les 5h ici à Paris, 6h30 à Téhéran.
Martin Guèze.
Et l'Iran promet une réponse forte après l'attaque massive israélienne. L'aviation de l'État hébreu a frappé des cibles nucléaires et militaires sur le sol iranien, notamment la base de Natanz dans le centre du pays, site d'enrichissement d'uranium. Le chef des gardiens de la révolution, le général Hossein Salami, a été tué selon les agences de presse iraniennes. Les États-Unis, qui appelaient hier à ne pas frapper Téhéran, disent ne pas être impliqués dans l'attaque. On vient aussi ce matin sur ce crash en Inde, une catastrophe aérienne qui a fait 265 morts. L'appareil s'est écrasé sur une zone densément peuplée de l'ouest du pays. La série noire se prolonge pour l'avionneur Boeing. En RDC, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, est à Goma près de 5 mois après la chute de la capitale du Nord Kivu aux mains de la FCM-23. La dirigeante onusienne doit notamment rencontrer Corneille Nanga. Enfin en France, l'indépendantiste Christian Théin est sorti de prison après près d'un an derrière les barreaux. Les réactions de la sphère politique sont contrastées, vous l'entendrez. Nuit de feu en Iran, Israël frappe massivement des cibles nucléaires et militaires. L'armée de l'État hébreu dit avoir achevé la première phase de ses frappes, notamment sur l'usine d'enrichissement d'uranium de Natanz, au sud de Téhéran. Des frappes qui ont aussi touché les scientifiques qui travaillent sur le site. Une opération qui durera autant de jours que nécessaire, annonce le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Le chef des gardiens de la révolution, Hossein Salami, a été tué dans l'attaque, annoncent les agences iraniennes. Frapper l'Iran était nécessaire pour la défense d'Israël, a déclaré Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, après s'être entretenu avec l'État hébreu. Les États-Unis ne sont pas impliqués dans cette attaque, a-t-il précisé, rappelant que la priorité de son pays était de protéger ses forces dans la région. L'Iran, qui a fermé son espace aérien et tous ses aéroports, l'Irak, pays voisin, a fait de même. Espace aérien fermé aussi en Israël. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est exprimé dans la nuit.
Nous sommes à un moment crucial de l'histoire d'Israël. L'opération Force d'un lion a été menée il y a une heure. Nos courageux pilotes ont visé un certain nombre de cibles à travers l'Iran. L'objectif de cette opération sans précédent est de frapper les infrastructures nucléaires de l'Iran, les usines de missiles balistiques de l'Iran et les capacités militaires de l'Iran. Cette opération se poursuivra aussi longtemps qu'il le faudra, jusqu'à ce que nous ayons mené à bien notre mission, réduire la menace d'anéantissement qui plane au-dessus de nos têtes.
Et le chef d'état-major israélien a lui parlé de campagne militaire historique, ajoutant qu'il ne pouvait pas promettre un succès absolu. Le président américain Donald Trump a annoncé qu'il réunirait aujourd'hui son conseil de sécurité nationale après les frappes israéliennes sur l'Iran. Le président américain qui demandait encore ce jeudi midi à l'état hébreu de ne pas attaquer l'Iran et de laisser une chance à la diplomatie, alors qu'un sixième round de pourparlers sur le nucléaire iranien devait se tenir ce dimanche à Oman. La situation en Iran est à suivre minute par minute sur notre fil en direct en une de notre site internet RFI.fr. Une situation sur laquelle nous reviendrons tout au long de la matinée sur RFI. Autre grand titre de l'actualité ce matin, ce terrible crash aérien en Inde après son décollage de l'aéroport d'Ahmedabad dans l'ouest du pays. 265 personnes sont mortes, 242 passagers, mais aussi une vingtaine de personnes au sol. Le Boeing de la compagnie Air India s'est écrasé sur une zone très densément peuplée. L'équipage avait lancé un message de détresse juste après le décollage. L'avion qui devait se rendre à Londres pour l'heure difficile d'expliquer cette catastrophe. Mais la série noire se poursuit pour Boeing. L'avionneur est impliqué dans plusieurs accidents ces 7 dernières années. Mais jamais d'une telle ampleur. Son appareil, le Dreamliner 787, était même considéré comme l'un des modèles les plus sûrs du marché. Il faudra vite établir les causes de ce drame, estime Gérard Felzer, ancien pilote de ligne et président d'Aviation Sans Frontières.
On a intérêt quand même à savoir rapidement ce qui s'est passé grâce aux boîtes noires qui vont retracer le vol et puis l'enregistreur de conversation entre les pilotes et la tour de contrôle. Il faut savoir vite pourquoi, parce que si c'est un défaut qu'on découvre 15 ans après la mise en ligne de cet avion, eh bien, il faut prévenir toutes les compagnies qui exploitent cet avion. Donc, alors, il n'y aura peut-être rien, mais entre un carburant de mauvaise qualité qui éteint les deux moteurs, ingestion d'oiseaux ou une panne sur les commandes de vol, on peut tout envisager aujourd'hui jusqu'à même trouver des faiblesses qu'on n'imaginait pas.
Ce serait un coup très dur pour Boeing si effectivement il y avait un problème structurel sur le Dreamliner, qui est un avion très important pour le constructeur américain.
Ah oui, c'est l'avion vedette, le Dreamliner. Donc, si vraiment il s'avère qu'il y a un défaut ou de conception ou de fabrication, alors là, évidemment, il va le payer très cher.
Des propos recueillis par Daniel Vallot. Une seule personne a survécu à ce crash. Vishwas Kumar Ramesh, un Britanno-Indien de 38 ans, véritable miraculé.
RFI à Goma, 98 FM.
RFI, les 5h05 à Paris et à Goma, où pour la première fois depuis la chute de la capitale du Nord Kivu aux mains de la FCM-23 il y a près de 5 mois, la MONUSCO s'entretient avec le groupe armé soutenu par Kigali. Bintou Keïta est présente pour une visite de 3 jours, la représentante de la mission onusienne qui doit rencontrer les représentants de la FCM-23, et ce après des mois de tension entre la MONUSCO et le mouvement rebelle Passion Ligodi.
Ce sera le moment le plus attendu de cette visite, la rencontre entre Bintou Keïta et Corneille Nangaa. Le mouvement armé considère la mission onusienne comme une force belligérante vaincue, comme l'armée congolaise. Depuis, la FCM-23 contrôle les zones et surveille de près les déplacements des casques bleus. Le mouvement veut aller plus loin et pousse pour obtenir un mémorandum d'entente avec la MONUSCO. Objectif, redéfinir sa présence sur le terrain. Mais cette demande agace. Une source onusienne contactée par RFI affirme que ce ne sera pas à l'ordre du jour. Autre épisode, en avril, la FCM-23 a accusé les FRDC, la MONUSCO et la SADC d'avoir mené des attaques contre Goma, Kavumu et d'autres localités dans les deux Kivu. La mission onusienne a démenti. Cette visite de Bintou Keïta intervient aussi au lendemain d'un rapport accablant. Selon le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, la majorité des violations des droits humains enregistrées au mois d'avril sont le fait de groupes armés. Et en tête, la FCM-23 soutenue par l'armée rwandaise. Mais malgré ce contexte, le dialogue n'a pas été rompu. En mars, Corneille Nangaa avait déjà reçu Bruno Le Marquis, numéro 2 de la MONUSCO. Et cette nouvelle visite arrive aussi à un moment particulier. Dans 2 semaines, Bintou Keïta doit s'exprimer devant le Conseil de sécurité.
Explication signée Patient Ligodi. Direction la Suisse à présent, où la vallée du Lönnchenstal tente de se relever 2 semaines après l'effondrement d'un glacier sur le petit village de Blatten. Des images qui avaient fait le tour du monde. Blatten, où la vie reprend son cours petit à petit après cette catastrophe provoquée par le réchauffement climatique et les glaciers qui fondent à vitesse grand V dans les Alpes. Jérémy Lanche.
Après avoir investi le Lönnchenstal en masse, les médias du monde entier ont quitté ce petit bout de Suisse ces derniers jours. Ici, la vie a repris son cours. Dans la rue, les enfants marchent tranquillement vers l'école sans être importunés par les caméras. Et les habitués reviennent aux terrasses des cafés parce qu'il faut bien aller de l'avant. Fernando Lehner habite la vallée. Il est aussi membre de la cellule de crise du Lönnchenstal.
Naturellement, nous voulons reconstruire Blatten. La question maintenant, c'est où est-ce que c'est possible ? La priorité absolue, c'est de refaire la route. Et on y travaille déjà. Il faut pouvoir rétablir rapidement les infrastructures, ramener l'électricité, l'eau et tout le reste.
De partout dans le pays, les dons affluent pour venir en aide aux sinistrés. Le canton du Valais a débloqué 10 millions de francs suisses pour Blatten. Mais pas question de reconstruire sans prendre en compte l'impact du réchauffement, plaide le président du gouvernement local, Mathias Reynard.
Il n'est pas du tout certain qu'on puisse reconstruire le village tel quel au même endroit. Le faux débat aujourd'hui, ce serait de dire « Mais est-ce que Blatten, ça serait pas quand même arrivé sans le dérèglement climatique et autres ?» Mais bon Dieu, ouvrez les yeux. On passe notre temps à sauter d'une catastrophe à l'autre. À côté de Blatten, il y a plein d'autres petits Blatten.
Avec 10% de son territoire recouvert par des glaciers qui fondent à vitesse grand V, le Valais sait qu'il doit se préparer à la multiplication d'événements extrêmes. Jérémy Lange, dans la vallée du Lönnchenstal, RFI.
Enfin, il était enfermé au centre pénitentiaire de Mulhouse, dans l'est de la France, depuis près d'un an. L'indépendantiste kanak Christian Théin a été libéré après décision de la Cour d'appel de Paris. Hier, en fin de journée, libération conditionnelle pour cet indépendantiste, chef de la cellule de coordination des actions de terrain, une organisation soupçonnée d'avoir provoqué une partie des violences qui ont agité la Nouvelle-Calédonie au printemps 2024. Des violences qui avaient fait 14 morts, une libération qui suscite des réactions, disons, contrastées. Aurélien Devernois.
Une victoire pour le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon, un bon signal pour le patron des députés communistes Stéphane Peu. C'est surtout à gauche, où l'on dénonçait depuis des mois des détentions provisoires aux relents coloniaux, que la satisfaction s'affiche, car dans les autres bords politiques, c'est le silence, voire la consternation chez les élus anti-indépendantistes, à l'image du député néo-calédonien Nicolas Metzdorf, pour qui ces libérations sont un mauvais message, brouillant la situation à quelques jours du sommet extraordinaire devant être organisé à l'Élysée par Emmanuel Macron. Le camp loyal liste avertie, si Christian Théin devait siéger à la table des négociations, ce sera sans lui. En tant que président du FLNKS, il pourrait prétendre à faire entendre sa voix lors des discussions, mais l'alliance indépendantiste est elle-même divisée sur son cas. Pas question non plus d'affaiblir le ministre de l'Outre-mer, Manuel Valls, dont la méthode saluée par les indépendantistes a été remise en cause par Emmanuel Macron. Des dissonances au sein de l'exécutif qui inquiètent, le nouveau projet évoqué cette semaine par le chef de l'État, qui souhaite notamment tourner la page des référendums, suscite la méfiance dans les deux camps.
Aurélien Devernois du service politique de RFI. Voilà, c'est la fin de ce journal. Il est 5h10 ici à Paris. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Grand Reportage.